et doit l'instruire. Alors pourquoi les délais sont-ils aussi longs aujourd'hui du côté du CGRA? Je leur ai passé un petit coup de fil pour y voir clair, et c'est Damien Dermot, le porte-parole, qui a répondu à mes questions.
Damien Dermot, bonjour.
Oui, monsieur Dermot, Arnaud Reussen.
Bonjour monsieur, voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots d'ailleurs? J'ai commencé par lui demander comment se passait en temps normal l'examen d'une demande de protection internationale par le CGRA, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
Alors d'abord, il faut rappeler que le CGRA est une instance indépendante en matière d'asile et que notre mission consiste à protéger ceux qui en ont effectivement besoin. Donc tout est dans la définition. Comment ça se passe? Ça se passe par le biais d'un entretien individuel, on appelle ça un entretien personnel. C'est-à-dire que chaque demandeur ou chaque demandeuse est convié au CGRA pour un entretien personnel. Ça nous permet de faire une analyse approfondie de la situation réelle, parce que c'est ça qu'on a besoin. On analyse au cas par cas, en tenant compte de la situation réelle de ces personnes, pour en fin de compte vérifier s'il y a lieu de leur octroyer un statut de protection, qui peut être soit un statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, soit un statut de protection subsidiaire. On fait ça donc conformément à des instruments internationaux, des conventions internationales, mais aussi bien sûr en tenant compte de la jurisprudence internationale, mais aussi belge, par le biais des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers.
Ça, c'est donc la procédure habituelle. Alors pourquoi en ce moment les procédures prennent-elles autant de temps?
Alors on ne peut pas nier l'évidence, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, le nombre de demandes de protection internationale introduites par mois a tout simplement doublé en Belgique. Donc incontestablement, ça a une influence sur la charge de travail du CGRA bien sûr, mais de l'ensemble des instances chargées du traitement des demandes d'asile. Alors du coup, il y a une charge de travail supplémentaire, il y a un arriéré, et puis il ne faut pas oublier que le traitement d'une demande d'asile, d'une demande de protection internationale, est une procédure complexe.
Le commissariat général a d'ailleurs reçu ces derniers jours le renfort de personnel supplémentaire pour résorber le retard. Mais il y a un autre problème, pointé encore du côté des ONG, le fait que pendant longtemps, le dossier de toute une série de demandeurs d'asile afghans a été gelé. Pourquoi donc? J'ai aussi posé cette question à Damien Dermot.
Il faut rappeler que c'était un gel partiel, c'était un gel temporaire. À l'instar d'autres pays de l'Union européenne, il est vrai, le CGRA a décidé, à la suite de la prise du pouvoir par les talibans en août 21, de suspendre donc temporairement certaines décisions concernant les demandeurs de protection internationale originaires d'Afghanistan, parce qu'on estimait en fait qu'on ne disposait pas de toutes les informations nécessaires au sujet de la situation objective en Afghanistan.
Mais est-ce que ça veut dire que donc, même si le CGRA est indépendant, hein, vous l'avez bien dit, la consigne qu'il reçoit, c'est de ne donner le statut de protection internationale que vraiment quand il est absolument nécessaire? Il n'y a pas une forme de principe de précaution? On aurait pu se dire par exemple qu'avec le retour des talibans, la situation était suffisamment questionnante, je dirais, au niveau des droits humains, que pour que la Belgique offre une protection aux personnes qui venaient d'Afghanistan.
Alors là, je peux vous répondre de manière très claire. L'indépendance du CGRA, elle est réelle. Elle est garantie par la loi, donc nous ne recevons de consignes de personne. Ni de la secrétaire d'État, ni du gouvernement. C'est en âme et conscience, mais surtout sur base de notre expertise, de nos informations recueillies avec soin. Alors effectivement, bien sûr qu'il y a toujours des profils à risque en Afghanistan. Ceux-là reçoivent un statut de protection. Et il y a aussi des personnes qui ont quitté le pays parce que la situation est évidemment est problématique et tout sauf facile, mais qui n'entrent pas dans les critères juridiques de la Convention. C'est une décision prise en toute indépendance sur base de notre connaissance de la situation sur place, mais également d'une analyse donc individuelle.
Voilà donc pour les explications données par le CGRA sur les raisons d'une procédure aussi longue. Au vu de cela, ne serait-il pas possible alors d'augmenter en proportion le nombre de places disponibles en centre d'accueil? Réponse de Benoît Mancy, le porte-parole de FEDASI.
Augmenter la capacité d'accueil, ça représente un coût budgétaire, un coût humain aussi, et il faut pouvoir trouver les bâtiments, il faut pouvoir aussi entamer une concertation avec les autorités locales, recruter du personnel, donc ça prend du temps et c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, on constate que le recrutement du personnel, c'est un obstacle, c'est une barrière, ça freine en fait l'ouverture d'un site. On a par exemple des sites qu'on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas exploiter à 100% parce qu'on n'a pas encore pu recruter toutes les personnes.
Selon FEDASIL donc, impossible de pouvoir, sur un claquement de doigts, augmenter le nombre de places pour répondre à la demande très importante du moment.
Si ce sont des places d'urgence avec un un accueil, un accompagnement minimal, comme on est en train de l'organiser à Glon et à Yabé, ça peut prendre quelques semaines. Si on est évidemment dans un centre d'accueil avec un accompagnement complet, ça peut prendre des mois avant de. Entre le moment où on a une piste de centre d'accueil et le moment où les premiers demandeurs d'asile sont hébergés, ça prend des mois.
Est-ce qu'on ne paye pas un peu le fait qu'à un moment donné, quand il y avait moins de migrants, on en a fermé aussi, et que bah, forcément, comme vous le dites, il ne suffit pas de rouvrir avec des clés un bâtiment pour qu'on puisse accueillir du jour au lendemain?
Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu. Aujourd'hui, on paye évidemment la politique du yo-yo qu'on a connue ces dernières années. C'est qu'en période de crise, comme en 2015, on ouvre des places, des centres d'accueil parce qu'on a besoin de cette capacité. Mais une fois la crise passée, on ferme ces places. C'est ce qu'on a observé en 2016, en 2017, où bon, je pense que pendant une année, on avait fermé plus de 10 000 places d'accueil. Après. Vers 2019, on a senti que le besoin de places d'accueil revenait. On a augmenté l'occupation et on a aussi recommencé à créer de la capacité d'accueil, à ouvrir des centres pour pouvoir accueillir tout le monde. Et évidemment, notre souhait maintenant, c'est qu'une fois que cette crise ou que ce besoin sera passé, qu'on puisse conserver une partie de la capacité d'accueil créée, qu'elle soit mise en réserve, en tampon, qu'on puisse bénéficier des infrastructures sans vraiment les utiliser, mais au cas où ce serait nécessaire de pouvoir les activer. Ça, c'est important pour éviter à chaque fois, à chaque besoin, à chaque crise, de devoir recréer une capacité d'accueil, parce que ça prend du temps, ça demande des moyens humains, budgétaires importants, et on peut en faire en fait l'économie si on décide de ne pas tout fermer.
En attendant, cela fait des mois maintenant que des personnes sont en attente de solutions d'hébergement. Et à mesure que l'hiver s'approche, la situation devient chaque jour un peu plus grave. Le risque de connaître des drames ne fait que croître. Face à cela, des milliers de demandeurs d'asile, aidés par des avocats, par des ONG, essayent de faire entendre leurs droits. Et j'ai pris rendez-vous avec l'une des avocates qui a justement déposé déjà des dizaines et des dizaines de recours ces derniers mois. Elle s'appelle Hélène Crocard, avocate spécialisée en droit des étrangers. Et dans une journée remplie de boulot à déjà ne plus savoir qu'en faire, elle a quand même pris le temps de me recevoir quelques instants pour m'expliquer le boulot qui est le sien depuis le début de cette crise de l'accueil.
Depuis octobre 2021, on s'est organisé, les avocats bruxellois principalement se sont organisés pour introduire des procédures individuelles pour chacune des personnes qui étaient laissées à la rue en vue d'obtenir une condamnation de fait d'asile de l'État belge à les héberger. Là, plus d'un an après le début de la crise de l'accueil, on a introduit plus de 7000 requêtes individuelles. Et lorsque fait d'asile est finalement condamné à héberger ces personnes, dans un premier temps, fait d'asile respectait les ordonnances du tribunal, y donnait suite et donnait une place d'hébergement. Pour l'instant, on constate que fait d'asile reste en défaut d'exécuter les ordonnances, donc les jugements, et que les personnes attendent parfois plus de 3 mois entre la date à laquelle le jugement a été prononcé et le moment où ils reçoivent finalement un hébergement.
Vous avez bien entendu ce chiffre. Plus de 7000 requêtes individuelles qui ont abouti à pratiquement autant de décisions de justice imposant à fait d'asile et donc à l'État belge d'héberger les requérants sous peine d'astreinte. Sauf qu'aujourd'hui, même avec ces décisions de justice, les demandeurs d'asile qui obtiennent gain de cause doivent attendre parfois très longtemps avant d'être hébergés.
Absolument. Donc on observe plusieurs phases dans cette crise de l'accueil. Dans un premier temps, lorsqu'on obtenait les jugements, on les envoyait à fait d'asile et les personnes recevaient un hébergement le lendemain. Ensuite, dans une deuxième phase, on a été obligé de faire intervenir des huissiers de justice pour faire signifier les décisions judiciaires et qu'elles deviennent donc exécutables. Et le lendemain de la signification, fait d'asile convoquait nos clients en vue de les héberger. Maintenant, on se situe dans une troisième phase, à savoir le refus manifeste d'exécuter les ordonnances, même lorsqu'elles ont été signifiées par huissier de justice, puisque le délai d'attente est d'environ 2 à 3 mois après signification, ce qui oblige les avocats à introduire une autre procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une procédure qu'on appelle une demande de mesures urgentes et provisoires. Donc concrètement, on saisit la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant un risque de violation d'un droit fondamental, à savoir le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. C'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on demande à la Cour européenne de condamner l'État belge à adopter des mesures urgentes et provisoires. Lorsque la Cour européenne adopte ces mesures, on constate à nouveau que FEDASIL convoque dans les jours qui suivent nos clients pour enfin être hébergés. Et donc on se trouve face à un système qu'on trouve particulièrement hypocrite, puisque quand la Belgique est finalement condamnée à adopter cette mesure-là, eh bien, comme par hasard, des places se libèrent pour les personnes concernées.
Mais donc ça veut dire qu'on a dû monter d'un cran, entre guillemets, dans la gradation des réactions au niveau judiciaire. Dans un premier temps, on avait juste un jugement du tribunal du travail. Maintenant, pour que l'État belge remplisse ses obligations, il faut passer par la Cour européenne des droits humains.
Oui, tout à fait. Donc on se trouve dans cette situation actuellement. Donc on fait face à une non-volonté de l'État d'exécuter des décisions judiciaires. Et donc selon nous, c'est vraiment l'État de droit qui est menacé, puisque on fait face à cet État qui dit, voilà, on accepte les jugements qui sont prononcés, on ne les conteste pas. Il faut savoir que l'État belge ou FEDASIL, ils ne vont pas en appel pour contester les jugements qu'on obtient. Donc ils acquiescent au jugement, mais ils s'asseyent sur leur exécution. Donc ils indiquent, on n'a pas l'intention de les exécuter. Alors il faut savoir aussi que ces jugements prévoient des condamnations avec astreinte. Astreinte, c'est-à-dire une somme financière qui normalement devrait être payée à chaque demandeur pour chaque jour qu'il passe dans la rue après la signification de son jugement. Mais l'État belge ne paye pas les astreintes. Donc il reste vraiment en défaut d'exécuter l'ordonnance sous tous ses aspects.
Et c'est combien normalement d'astreintes par jour que l'État est censé payer aux demandeurs à qui il ne peut pas proposer le logement auquel ils ont droit ?
Alors, au fur et à mesure de la crise, on a vu que la réaction du tribunal a été de plus en plus sévère. Donc, dans un premier temps, le tribunal condamnait à 100 euros par jour, pour ensuite monter à 250, puis 500. Maintenant, on en est à des astreintes de 1000 euros par jour d'inexécution de l'ordonnance.
Ça veut dire que aujourd'hui, si l'État respectait les décisions de justice, il devrait loger les personnes ou payer des centaines de milliers d'euros d'astreintes par jour et... La plupart du temps, il ne fait ni l'un ni l'autre.
Exactement. Tout à fait. Donc on n'a pas fait le calcul des astreintes qui sont effectivement dues, mais ça se chiffre, oui, peut-être en milliers, en millions d'euros. Je n'ai pas le calcul exact, hein, mais admettons qu'une personne reste 2 à 3 mois dans la rue après exécution de son ordonnance, ça fait entre 60 et 90 jours, donc 60 à 90 000 euros par personne. Et pour l'instant, on estime qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes qui sont dehors. Donc faites le calcul.
Eh bien, faisons-le ensemble, ce calcul. Mettons qu'il y ait 2500 personnes à la rue aujourd'hui et qu'il faille au moins 60 jours avant que FEDASIL ne trouve une place à chacune de ces personnes malgré le jugement. Avec une astreinte de 1000 euros par jour, cela fait 2500 x 60 x 1000, donc 150 millions d'euros ou même 225 millions d'euros si on table sur un délai de 90 jours avant que ne soit trouvée une place en centre d'accueil. C'est évidemment énorme. Mais à cela, la secrétaire d'État fédérale à l'asile, la CDNV Nicole Demore, répond qu'il n'y a pas de solution magique et elle pointe toute la difficulté à ouvrir des places en suffisance face à la demande accrue, face au délai allongé, ce que dit d'ailleurs aussi, vous l'avez entendu, FEDASIL. Mais cette réponse, elle ne satisfait pas l'avocate Hélène Crocard.
On juge cette réponse totalement insuffisante. D'abord, on rappelle que cette réponse, on l'entend inlassablement depuis un an, qu'on constate qu'en un an, très peu de mesures structurelles ont été adoptées pour finalement faire face à cette crise. Et on rappelle aussi que cette obligation de loger et de procurer une aide matérielle aux personnes qui introduisent une demande de protection internationale en Belgique, c'est ce qu'on appelle une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc ce n'est pas suffisant de dire « on a essayé mais on n'y est pas parvenu ». Il y a des obligations internationales internationales qui découlent de directives européennes, de conventions internationales et de la loi belge qui impose le fait qu'une personne qui introduit une demande d'asile doit être hébergée. Et donc cette réponse, elle est totalement insatisfaisante. Au-delà du risque, comme je le disais, pour l'état de droit, puisqu'on constate que le politique reste en défaut de respecter des décisions judiciaires, eh bien là, on constate qu'il n'y a pas de volonté politique. On a la sensation que la seule préoccupation de la secrétaire d'État, c'est de satisfaire son électorat qu'elle reste en défaut d'actionner des mesures qui sont possibles sur le terrain. Donc on ne comprend pas comment il est possible qu'un plan national d'urgence ne soit pas décrété, par exemple, avec réquisition d'infrastructures, mais aussi de personnel spécifique pour pouvoir venir à bout de cette crise et que toutes les personnes soient mises à l'abri. Ici, on craint réellement cet hiver qui approche. Les températures sont déjà très froides pendant la nuit et on court à la catastrophe s'il n'y a rien d'autre qui est mis en place.
Alors, l'État belge peut-il faire vraiment davantage ou faire autrement ? Je prends la direction du CIRE, acronyme de Coordination et Initiative pour Réfugiés et Étrangers. Cette ASBL travaille pour le droit des personnes exilées avec son titre de séjour, mais elle est aussi un des partenaires de FEDASILE dans l'accueil des demandeurs d'asile, ce qui lui confère un regard assez global, évidemment, sur l'enjeu. J'y ai rendez-vous avec Soti Tango, la directrice, à qui je pose la question de savoir si le gouvernement est coincé ou s'il pourrait activer d'autres solutions. Et elle commence par souligner l'évolution constatée ces dernières années en matière de politique d'accueil.
Historiquement, l'accueil a beaucoup évolué. Entre 1980, les premiers moments d'accueil un petit peu organisé, la création de FEDASILE au début des années 2000 et la situation actuelle, la politique d'accueil, elle est venue à un moment de tout le monde est accueilli, mais un peu sur la bonne volonté. Les demandeurs d'asile n'étaient pas vus comme ni une menace, ni un danger, ni un problème d'ailleurs, et donc ils se répartissaient. Et puis clairement, les migrations ont évolué aussi au cours de ces dizaines d'années, et la politique d'accueil est passée d'une intervention financière à petit à petit de plus en plus d'accueil matériel. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire une place dans un centre. Ça a été vu comme étant la meilleure réponse à ce mythe de l'appel d'air au moment où il y avait des crises similaires à celles qu'on vit aujourd'hui. On se disait, il y a beaucoup trop de demandeurs d'asile. Pourquoi il y en a beaucoup trop ? C'est parce qu'on est trop attractif. Donc on va dire à ces gens qu'ils n'ont plus droit à l'aide financière, qu'ils ont juste droit à un lit dans un centre, et ça va dissuader les personnes. L'histoire nous montre que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le modèle d'accueil, c'est le principe sacro-saint quasiment de l'accueil matériel. Et on se retrouve à la situation actuelle où ce n'est pas si simple que de créer des places d'accueil dans des centres pour l'ensemble des personnes qui se présentent lorsque les arrivées sont très nombreuses.
Et de fait, aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec un afflux de migration important. Myria, le centre fédéral migration, a calculé qu'en moyenne mensuelle, nous connaissons en 2022 une augmentation du nombre de demandeurs d'asile de 58% en Belgique. C'est plus que dans pas mal d'autres pays européens, plus que la France, plus que l'Allemagne ou l'Italie, moins que l'Espagne par contre, où le chiffre atteint 83%. Donc, pour Soti Tango, ça montre que ce n'est pas parce qu'on est moins accueillant que cela décourage des personnes qui vivent dans une situation de détresse d'entamer un parcours de migration. Que pense alors aujourd'hui la directrice du CIRE de la réponse du gouvernement quand il dit qu'il fait aujourd'hui tout ce qu'il peut et qu'il lui est impossible de créer suffisamment vite des solutions d'accueil pour loger tout le monde ?
C'est faux. Et d'ailleurs, nous, ça fait des mois et des mois qu'on propose des solutions et on les a rendues publiques, on en discute avec le cabinet du Premier ministre, on a déposé une feuille de route avec des mesures très pratiques, très opérationnelles, pragmatiques pour ne pas être dans l'idéologie. Et donc, aujourd'hui, dire qu'on est au bout de nos possibilités, c'est faux. La loi accueil prévoit en elle-même, donc c'est vraiment la Bible législative qui organise l'accueil en Belgique. Il y a un alinéa précis, et les juges le mettent en avant devant FEDASILE en disant « Vous n'avez pas activé certains alinéas de votre loi accueil, et notamment la répartition des demandeurs d'asile entre les CPS de tout le pays, ce qu'on appelle le plan de répartition. Et ça, c'est l'histoire de notre politique d'accueil. Il fut un temps où les demandeurs d'asile étaient répartis à travers tout le territoire de la Belgique, et donc chaque CPS se voyait attribuer un espèce de quota de demandeurs d'asile à accueillir. Et donc, c'est la même logique que les logements individuels. Mais les CPAS ouvraient un appartement, deux appartements. Une commune X devait accueillir 12 demandeurs d'asile. Elle en accueillait 12. Point.
Mais est-ce que, aujourd'hui, ça, ce serait vraiment possible? Parce qu'on sait qu'il y a déjà énormément de charges qui pèsent aujourd'hui sur les CPAS, avec des personnes en difficulté à cause de la crise énergétique, avec l'accueil aussi des Ukrainiens, où là aussi, les CPAS ont un rôle très important à jouer. Est-ce que c'est pas toujours sur les CPAS qu'on se retourne? Est-ce qu'ils sont encore en mesure de faire davantage, par exemple, dans le cadre d'un plan de répartition des demandeurs d'asile?
Alors, oui, c'est possible, mais c'est possible si on explique en quoi, qu'est-ce qui tomberait sur les CPAS. Il faut savoir que ce plan de répartition, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est une formule. C'est une formule qui tient compte du PIB, de la commune, du nombre d'habitants, du nombre d'allocataires sociaux, et donc on détermine des quotas, et les quotas, ils sont vraiment... C'est pas que le CPAS de Saint-Gilles va devoir accueillir 1500 demandeurs d'asile. D'abord, ça immunise les CPAS des communes qui sont confrontées à un gros nombre d'allocataires sociaux. Ça immunise quasiment toutes les grandes villes du pays. Ça immunise les 19 communes quasiment de la région bruxelloise. Ça immunise aussi des communes qui accueillent déjà un grand centre d'accueil. On pense à certains grands centres, par exemple, dans la province du Luxembourg. On sait que les CPAS de ces lieux-là sont déjà confrontés à cette population. Mais on sait aussi à quel point il y a de nombreuses communes, il y a plus de 500 communes en Belgique, il y a de nombreuses communes pour lesquelles ça ne changeait rien de se voir attribuer 8 demandeurs d'asile à accueillir. 500 communes chargées toutes d'accueillir entre 5 et 10 demandeurs d'asile, et la crise de l'accueil a terminé sans que ça ait fait plonger le CPS, parce qu'il aurait dû engager 20 assistants sociaux pour faire face à la charge de travail. C'est ce genre de charge qui pèserait sur les CPS, qui serait remboursée par ailleurs par le fédéral pour l'aide accordée, évidemment.
Sautier Tango évoque une autre solution possible encore, qui a déjà été activé par le passé. Loger certains demandeurs d'asile dans des hôtels le temps de résorber la crise. Mais là,
c'est vraiment un refus catégorique de la part du gouvernement de mobiliser les hôtels pour mettre à l'abri. Parce qu'on peut s'imaginer, si on est trop court de 3 à 4 000 places pour l'instant, 3 à 4 000 lits dans des hôtels, ça se trouve. Et pas au Hilton ou au Sheraton. Dans des petits hôtels, des auberges de jeunesse. On